Et puis le Seigneur m'a donné un texte. Alors de suite, j'ai pris un crayon et je l'ai écrit. Et ça correspond à ce que la sœur a dit, Marilyn. C'est un texte qui se trouve dans le psaume 112, verset 8. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Et je bénis Dieu de ce que le Seigneur a fait pour notre sœur. Parce que c'est vrai, comme on apprend des mauvaises nouvelles, on n'est pas trop réjoui. Mauvaises nouvelles ne font pas du bien. Mais je bénis le Seigneur parce que, au travers des mauvaises nouvelles que nous pouvons apprendre, il est là, lui. Et il contrôle tout. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche, on va dire, l'humanité depuis la création à nous aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la chute. Et le sujet dans lequel je voudrais m'entretenir, c'est le découragement. Quelle est la personne parmi nous qui n'est pas passée un jour par un découragement? Le découragement a commencé, bien sûr, on a dit, à la chute, juste à nous aujourd'hui. Mais le découragement, toute la terre a passé par des moments difficiles. Et bien sûr, le découragement n'arrive pas tout seul. Il fait suite à des événements. Alors, comme nous regardons aujourd'hui un petit peu la société, le monde dans lequel nous vivons, on s'aperçoit, ne serait-ce qu'à regarder, on va dire, le journal, on n'a que des mauvaises nouvelles. L'augmentation du mal sur la terre. Les bruits de guerre. La Russie contre les Ukrainiens. Le Hamas contre Israël. Et bien sûr, ça décourage beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, les gens, à partir de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent, ils tombent dans la crainte et dans la peur. Mais je bénis le Seigneur pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui ont été adoptés par Dieu. Pour nous, ces moments-là sont un signe avant-coureur de l'avenue du Messie que nous attendons. Nous devons lever nos têtes et ne pas avoir peur et ne pas avoir de crainte face à tous ces événements qu'il y a sur la terre. Alors, bien sûr, le découragement peut se présenter sous différents aspects. Une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus comme ça. On va faire une prise de sang. Ben on vous dit, monsieur, vous avez fait une prise de sang, ben vous êtes malade, gravement malade. Et bien sûr, on tombe dans un découragement. Alors, une mauvaise nouvelle, la maladie qui frappe le foyer, une épreuve insurmontable, la perte d'un emploi pour certains qui travaillent. Bien sûr, il nous faut travailler. Et s'il n'y a pas de travail, ben c'est dur, c'est compliqué. Et ensuite, bien sûr, une injustice qu'on peut subir à cause de personnes, de mauvaises personnes. Et surtout, la perte d'un être cher peut nous amener à un découragement. Récemment, nous avons perdu notre frère qui est parti au prix du Seigneur, Yves. Et bien sûr, je vous dis franchement, c'est avec mon cœur que je vous parle. C'est un modèle, cet homme-là. Parce que ne serait-ce rien que de le voir, avec les temps qui passaient, dans la maladie, dans les épreuves, Yves, jusqu'à son dernier souffle, est resté dans cette église. Et ça, pour moi, c'est un modèle. Et je bénis Dieu qui a nos anciens parmi nous, qui pourraient rester chez eux à la maison, mais qui sont constamment, on va dire, dans l'église. Et ils sont là et ils combattent avec nous. Merci Seigneur pour ces hommes qui sont parmi nous. Et nous verrons un homme, dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous verrez que l'âge pour lui n'était pas, on va dire, un obstacle pour aller au combat. Alors, il y a aussi des découragements qui peuvent venir nous atteindre, nos échecs à répétition, et surtout il y a des pensées récurrentes qui font leur apparition dans nos vies. Des fois on est découragé parce qu'on a des pensées qui viennent dans notre tête. Mais à ce moment-là, c'est là qu'il faut demander à Dieu de l'aide. Parce que le diable est fort, lui. Une petite pensée, un petit doute, et vous voyez le dégât qu'il va faire, si on n'est pas vigilant. Alors, ces sentiments que beaucoup de personnes sur la terre ont ressentis, mais elle s'appelle le découragement. Alors parfois on prie pour pendant des années, pour une situation dans un foyer, pour une personne qui est malade, et on n'a pas des fois de suite la réponse venant de la part de Dieu. Alors moi je l'ai écouté, certaines personnes se disent, mais où est Dieu ? Je passe des moments de fournaise. Il est où le Seigneur dans mes temps difficiles ? Et d'autres se disent, ça va marcher pour certains, mais pour moi ça ne marche pas. Mais soyez-en sûrs, Dieu est un Père qui entend les prières de ses enfants. Ne vous lassez pas de demander à Dieu. Ne baissez pas les bras. Il vous écoute. Mais en son temps à lui, il viendra à votre aide, comme il l'a fait pour beaucoup de personnes qui se sont confiées en lui. Alors, le découragement, bien sûr, lorsqu'on regarde le découragement, à quoi il ouvre les portes ? Ben, il ouvre les portes à la peur. Il va ouvrir les portes au doute, à la dépression, à l'anxiété. Et comme on regarde un petit peu dans le milieu évangélique, l'Église au corps de Christ, ben, c'est regrettable qu'il y ait encore des gens comme ça qui sont touchés comme ça. Bien sûr, nous sommes sur la terre et nous ne sommes pas exempts des temps difficiles. Alors, il y a dans la parole de Dieu des hommes qui ont passé par de grands découragements. Des hommes de Dieu qui ont passé des temps difficiles par de grandes épreuves. Si vous regardez Moïse, dans Nombre chapitre 11, verset 11, Moïse fut attristé. Pourtant, c'est Moïse, c'est l'homme qui a été choisi par Dieu pour sortir, on va dire, le peuple de la servitude en Égypte. Élie a demandé la mort, lui, dans 1 roi 19. Pourtant, Élie, c'est pas n'importe qui. Élie, c'est un homme à qui Dieu lui donne la parole. Tu resteras au trône de Kirit pendant 3 ans, tu ne bougeras pas. Et Élie ne bouge pas. C'est un homme extraordinaire, Élie. Mais vous verrez que, malgré que ce sont des hommes extraordinaires, eh bien, ils ont passé par des temps difficiles. Et sans oublier Job. Job. Sur lequel on ne pouvait rien dire. Dieu a témoigné de Job, même à Satan, tellement que Job est un homme droit et intègre. Mais pourtant, Job, il va passer par la fournaise. Alors, dans les temps difficiles que nous devons, que nous passons, nous devons nous appuyer sur Dieu. Et là, il y a 2 textes que j'aimerais introduire, parce que là, je suis dans l'introduction. Le psaume 37, verset 5, il nous dit... Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Ce matin, il est question de nous recommander à Dieu et de placer notre confiance en lui. Et un autre psaume, c'est le psalmiste qui va dire cela, dans le psaume 62, verset 7. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma il est le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Quelle bonne nouvelle, Seigneur, de savoir qu'on a un refuge, un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est bénéfique pour nous, qui sommes enfants de Dieu. Dans les temps difficiles, il est bon de mettre sa confiance en Dieu. Dieu est le rocher sur lequel nous pouvons tous les jours nous appuyer. Il est notre confident, il nous écoute. Alors, j'aimerais voir avec vous 3 récits qui nous parlent du découragement dans la parole de Dieu. Le premier, nous verrons le découragement des enfants d'Israël face à la peur d'affronter les géants. Et cela, nous le verrons dans Josué chapitre 14, versets 6 à 13. Ensuite, nous verrons le découragement de Jonas, l'homme qui reçoit une parole de Dieu pour aller annoncer, on va dire, mettre en garde une ville. Et bien sûr, cet homme-là va désobéir. Et nous verrons l'histoire de Jonas, qui se trouve dans Jonas chapitre 1, verset 3. Et nous finirons par le découragement d'Élie le prophète. Vous savez quel était le but de son découragement ? Mais pour lui, c'était une mauvaise nouvelle. Et vous allez voir ce que ça va entreprendre une mauvaise nouvelle. Ne l'oublions pas, nous sommes sur terre et nous sommes tous engagés dans un combat. Il nous faut du courage pour faire face à toutes nos épreuves qui surviennent dans nos vies. Mais surtout, l'aide de Dieu. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et moi, ce matin, je suis qu'un homme, et je suis limité. Je m'attends à Dieu. Alors je vais demander au frère Alain Blanc qu'il puisse me présenter au Seigneur pour la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur.
Notre Père, nous sommes à tes pieds ce matin.
Oui, Seigneur.
Pour te louer et t'adorer et pour aussi entendre ta
Seigneur,
parole.
Jésus-Christ, sois béni, Seigneur.
Notre désir, c'est que tu nous parles, Seigneur. Tu le fais, tu l'as déjà fait. Et nous sommes à tes pieds parce que tu es le maître de tout.
Amen, Seigneur.
Et c'est vrai que nous
oui,
avons...
Seigneur.
Et nous pouvons mettre notre confiance en toi, car tu es le rocher oui, du
Seigneur.
Seigneur, bénis-nous ce matin, je te prie. Nous ne voulons pas entendre la voix de notre frère, mais nous voulons t'entendre, Seigneur.
Amen, parler Seigneur. Amen, cœur, Seigneur.
Et nous te disons merci au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, amen. Donc, pour le premier passage que nous allons voir, ça va s'inscrire au tableau. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Josué chapitre 14, versets 6 à 13. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénézien, lui dit: « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec une droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, il m'a fait vivre juste comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui, de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour héritage. Amen. Donc là, nous sommes face à une situation. Et Caleb faisait partie des 12 hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays, la terre promise. Et Caleb va réclamer son héritage. Et sa requête va être acceptée par Josué. Caleb s'est adressé à Josué et lui a rappelé un fait qui s'est passé 45 ans en arrière. Et ce fait-là, vous le retrouvez, si on prend le contexte, dans Nombre chapitre 16, versets 26 à 33. Et à cette époque-là, Caleb était âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait envoyé explorer le pays. Et bien sûr, les frères qui étaient montés avec lui vont décourager le peuple. Alors, ils l'ont découragé par rapport à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Et là, j'aimerais voir le contexte avec vous. Le contexte se trouve dans Nombre 16, 27. Je vais prendre trois versets pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'ils ont expliqué à Moïse. Donc le rapport des 12 espions qui étaient envoyés par Moïse. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. C'est-à-dire, ils en ont apporté des preuves. Mais, verset 28, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous avons vu des fils d'Anak. » fils d'Anak, ce sont des géants. Et bien sûr, au verset 31, il nous est dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et là, lorsque je méditais ça chez moi, parce qu'on médite la parole de Dieu, comme chacun d'entre nous, mais je me disais, Seigneur, où est leur foi? Avec toutes ces choses que tu as fait, Seigneur, t'as ouvert la mer Rouge, à pied sec, ils ont passé. Ils ont vu des choses extraordinaires. Il n'y a pas un peuple sur terre qui a vu autant de miracles. Et au lieu de s'appuyer sur placer leur foi dans le Seigneur, ben ces gens-là, ces personnes-là, ils ont une peur, ils ont une frayeur. Mais Caleb, lui, suivit pleinement la voie de l'Éternel, son Dieu. Moïse avait juré à ce moment-là de lui donner le pays que son pied allait fouler. C'était la part de son héritage. Et donc Caleb demande son héritage, il dit « Donne-moi cet héritage ». Il demande une montagne. Et nous verrons après cette montagne où elle se situe par rapport à Israël. Caleb sait ce qu'il attend parce qu'il a vu lui, il faisait partie des 12. Il savait ce qu'il attendait, on va dire, sur cette montagne. Mais Caleb, lui, ne lâche pas les bras. Il a son Dieu avec lui. Il a Dieu à ses côtés. Et surtout, Caleb va s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et ce matin, j'aimerais encourager chacun d'entre nous à nous appuyer sur les promesses de Dieu. Il y en a plein dans la parole de Dieu. Vous l'ouvrez, vous verrez. Et vous verrez tout à l'heure ce qu'il nous promet le Seigneur. Il nous promet de grandes choses. Caleb, lui, s'est accroché, on va dire, à la promesse de Dieu. Et cette promesse, nous la trouvons dans le Exode, chapitre 6, verset 6. C'est Dieu qui parle. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Dieu leur a fait la promesse de leur donner le pays promis. Bien sûr, il y avait devant eux des difficultés, des épreuves, des géants, des combats à faire, et surtout le combat ne serait pas facile. Mais je m'arrête à Caleb. Quel homme de Dieu. Un homme comme ça, ça aurait été mon ami. Parce que le temps, sur lui, il n'a pas dépeint. Il avait 40 ans lorsqu'il reçut, on va dire, cette parole. Et là, il a 85 ans. 85 ans, je ne sais pas comment je vais être, moi. Je ne sais pas, j'aurai toujours la même vigueur. Mais lui, sa vigueur, il l'avait gardée. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. La vieillesse n'a rien changé à sa situation, telle qu'il était. Alors, bien sûr, il y a, dans ce que je viens de vous dire, il y a deux attitudes face à ce que nous voyons, face à l'adversité, et surtout deux réactions différentes. 10 sont là pour décourager, on va dire, les enfants d'Israël. Et 2 sont là pour dire, ben, montons et prenons le pays, nous avons Dieu avec nous. Et là, il y a, dans ces attitudes-là, nous voyons que le Seigneur va un peu respecter, on va dire, leur choix. Mais pour ceux, les lecteurs de la parole de Dieu, si vous regardez bien la trajectoire du peuple d'Israël, ben à cause de cela, qu'ils ne sont pas appuyés, on va dire, sur ce que Dieu leur donnait, ben ils voyaient 40 ans dans le désert. Et aucun de cette génération-là ne verra le pays promis. Parce qu'ils ont douté. Ils sont rebellés même. Parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, à sa parole, il était avec eux, et ils s'en tiennent à ce qu'ils voient. Donc Caleb a pu compter sur la confiance de Dieu. Il a placé sa foi dans le Seigneur. Et par rapport à ça, j'ai regardé un texte dans Isaïe 40, verset 31. Et cela, ça correspond très bien à Caleb. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Caleb a compté sur Dieu. Il s'est confié en Dieu. Dieu a renouvelé sa force. Son âge, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas un handicap pour lui. Ça ne l'empêchait pas d'aller au combat. Il ne baissait pas les bras. Et bien sûr, Caleb, si vous regardez Josué chapitre 15, verset 14, ben oui, à 85 ans, c'est lui qui va chasser les géants, les trois fils d'Anath. Et parfois, nous avons des géants devant nous. Mais bon, je ne veux pas reprendre un petit peu la prédication qui a été dite il y a quelques mois en arrière, enfin quelques jours en arrière, par notre frère qui a vraiment percuté mon cœur. Je veux simplement partager simplement ce qu'il y a devant nous, des fois, qui nous empêche la bénédiction avec le Seigneur. Il arrive parfois de voir nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves comme insurmontables. Comme insurmontables. La peur fait son apparition dans nos vies. Et certaines situations, nous les voyons pour certaines personnes plus grands que Dieu. Moi, j'ai vu des personnes apprendre des mauvaises nouvelles, et bien tellement être abattues. Et je me disais, Seigneur, où est leur foi qui passe dans le Seigneur ? Elle est où leur confiance ? Alors, certains enfants de Dieu sont terrifiés, effrayés de voir les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Et je pense que la plupart d'entre nous, on a passé des temps difficiles. Mais il faut savoir que Dieu est avec nous dans ces moments-là. Dieu ne lâche pas son enfant. Vous êtes ses enfants et vous lui appartenez. Moi, j'ai deux fils et une fille. Mais comme je disais hier avec le frère Thierry, on a discuté une femme, je donne ma vie pour mes enfants, moi. Parce que mes enfants, je les aime. Ma plus forte raison, Dieu, vous avez de la valeur à ses yeux. Vous êtes sa propriété. Vous portez son nom. Vous êtes enfant de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela, que malgré des temps difficiles, il est toujours là, lui. Donc des fois, on aurait tendance à lâcher sa main, mais lui, il ne lâche pas notre main. Parce qu'il est avec nous, le Seigneur. Alors dans ces moments-là, il serait bon de placer notre foi dans le Seigneur. Laisser Dieu combattre à notre place, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Et là, je vais vous rappeler un fait, peut-être pour ceux qui l'ont lu. Nous sommes dans Exode chapitre 14, verset 14. Moïse avait reçu une parole de faire sortir le peuple de Dieu du pied de la servitude. Et là, il se trouve face à la mer Rouge. Et puis derrière eux, il y a toute l'armée de Pharaon, avec 600 chars, avec des hommes armés. Alors bien sûr, je comprends leur situation, ils ont dû avoir peur face à la situation auquel ils étaient exposés. Mais je retiens un mot. Un mot de Moïse qui va dire quelque chose d'extraordinaire. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Bien souvent, des fois, lorsqu'on a des difficultés, des problèmes à affronter, faites silence dans votre cœur. Et dites, Seigneur, je n'ai pas la force, mais toi, tu es ma force. Alors bien sûr, il y a des cas, on va dire, qui nous paraissent désespérés et insurmontables. Mais parfois, des fois, il est bon de faire silence. Ou parfois, des fois, on le verra un peu plus loin, il est bon de crier aussi. Tout dépend, on va dire, le contexte dans lequel on se trouve. Alors dans les épreuves auxquelles nous sommes soumis, plaçons notre foi dans le Seigneur. Laissons Dieu combattre pour nous et vaincre tous nos problèmes. Vous savez, des fois, parfois nous avons un choix à faire. Affronter nos problèmes avec nos difficultés et nos épreuves en faisant confiance à Dieu comme l'a fait Caleb. Ou alors, baisser les bras, fuir devant le problème. Mais si nous plaçons notre foi dans le Seigneur, ben, il est bon de placer notre foi et de s'appuyer sur lui. Des fois, il y a des situations qui nous paraissent des fois insurmontables. Mais le Seigneur a dit dans Luc 18, chapitre 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a parmi nous peut-être des personnes qui sont rentrées et qui ont un visage radieux. Ça, c'est l'apparence. Mais derrière chaque personne, il y a un cœur. Et il y a des personnes qui sont en grande souffrance. Et moi, j'invite, comme je disais à une jeune fille hier, j'invite dans les moments les plus difficiles de vous approcher d'un frère, d'une sœur, du serviteur. Et nous verrons, parce que un peu plus loin, parce qu'il y a toujours un petit mot, avec un mot, le Seigneur peut relever une personne dans les moments difficiles. Alors, le psaume 84, 11, nous dit, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne te refusera pas ce que tu demanderas. Si tu as, on va dire, une marche sincère avec lui. Et donc voilà, c'est ce que nous devons faire, placer notre foi dans le Seigneur. Maintenant, j'aimerais voir avec vous Jonas, si vous voulez bien. Je vous invite à aller dans Jonas chapitre 1. Je vous invite à lire au chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Anitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Là, nous voyons que Jonas, c'est un homme qui reçut une parole. Et puis Dieu lui dit, lève-toi et va à Ninive, la grande ville. Car la méchanceté de ces gens est montée jusqu'à moi. Dieu voulait accorder une grâce aux gens de Ninive. Et pour ceux qui connaissent, la ville de Ninive était habitée par 120 000 âmes, c'est-à-dire 120 000 habitants. C'était une grande ville. Parce que dans le récit, bon, je ne vais pas vous le dire entier, mais Jonas, il a marché pendant 3 jours, hein, marche à pied, et dans cette ville. Mais là, nous voyons que Jonas, malgré qu'il a reçu, on va dire, une parole venant du Seigneur, désobéit s'en va à l'opposé de la direction que Dieu lui a donnée. Et là, Jonas, sans savoir, il se sort du plan de Dieu. Lorsque la parole de Dieu n'a plus d'autorité qu'elle a sur nous et dans nos cœurs, et bien on va finir par peu à peu à s'éloigner du plan de Dieu. Et on peut tomber dans une grande détresse. Dieu peut relever à ce moment-là celui qui est fatigué, et celui qui a du mal, on va dire, à vouloir aller au combat et faire la volonté de Dieu. Et ce matin, le Seigneur est là, lui. Et s'il y a des personnes parmi nous qui passent des temps comme ça, qui ont reçu un mot de Dieu, mais qui n'ont pas encore la force de le donner, ben moi, je vous invite, ce matin, Dieu peut vous aider à le donner ce mot-là. Alors, Dieu, ce matin, peut relever, on va dire, la personne qui est fatiguée moralement et spirituellement. Moi, je crois de tout mon cœur. S'il y a parmi nous des personnes qui se voient dans ce que je dis, Dieu peut vous relever. Alors, un exemple, Dieu peut nous mettre une personne qui passe par des temps de grande détresse. Et Dieu met une parole en nous. Une parole de réconfort qui peut redonner du courage à celui qui passe par des temps difficiles. Je vais vous raconter mon témoignage. J'ai passé par des temps difficiles. J'étais dans la fournaise. Lorsque j'ai pleuré, comme David, je n'ai plus avoir pleur, plus avoir de force pour pleurer. Mais Dieu m'a mis des hommes de Dieu, qui ne m'ont pas abandonné. Des hommes qui m'ont donné toujours un petit mot de réconfort. Je ne sais pas si vous avez passé par des temps comme ça, mais j'ai passé des temps comme ça. Et aujourd'hui, je suis là, parce que ces hommes-là, ils étaient un grand soutien pour moi. Ils m'ont aidé. Et ils avaient toujours un mot, ne baisse pas les bras. Parce que vous savez, aujourd'hui, un homme de Dieu peut être sur la montagne, et nous le verrons tout à l'heure. Mais tout, malgré sa stature et sa hauteur qu'il a, il peut se retrouver en bas de la montagne. Et oui, j'ai passé des temps difficiles, mais le Seigneur était toujours là. Je vais vous raconter un témoignage. Je me trouvais à l'époque, j'étais encore dans une caravane, et je voyageais, et avec mon beau-père, nous étions sur Millau. Et de Millau, on allait avec les frères à l'église de Lodève, Assemblée de Dieu. Et là, un dimanche matin, il y a un ancien qui s'est levé. C'était le moment où le serviteur devait prêcher. Et cet ancien se lève, il lève la main, il dit « Je peux dire un mot ?» Et puis le frère lui dit « Bien sûr, mon frère, dis un mot. » Alors il se met sur le côté. Et là, cet homme, ne connaissant pas ma vie, ne connaît rien de ma vie, il va commencer à parler. Et tout ce qu'il va dire, mot pour mot, c'est tout ce qui me touchait. Et là, j'ai vu la puissante main de Dieu. Dieu me disait « Ne baisse pas les bras, je suis avec toi. » Autant voulu, autant marqué, je te rétablirai. Et tu prêcheras ma parole. Et aujourd'hui, je suis là. Je vous prêche la parole. Cet homme avait dit, il avait dit des mots. Tout ce qu'il a dit touchait ma vie. Et je vous dis franchement, j'ai fait une grande expérience avec ça. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a fortifié. Alors, oui, on peut passer par des temps difficiles, mais Dieu est toujours là, lui. Et j'aimerais vous dire à vous, vous qui l'avez fait, souvenez-vous lorsque vous êtes allé visiter une personne qui était dans le découragement et que ces personnes-là passaient par des moments de grande détresse. Et là, vous êtes allé avec eux, vous leur avez donné un mot de Dieu et vous avez prié avec eux. Quelle fut leur réaction? Quelle bonté, Seigneur, lorsque on passe des temps difficiles et qu'il y a un frère, une sœur, qu'il y a un petit mot qui est toujours là pour nous encourager. C'est bon d'être encouragé, frères et sœurs. Nous sommes un corps, nous sommes l'Église. Comme je disais hier à une fille, on a tous besoin des uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de toute, chaque personne qui est dans cette Église. On a besoin de prier, d'intercéder les uns pour les autres. Parce que nous savons, nous sommes à un temps de la vie où le Seigneur va venir. Et bien sûr, il y a ceux qui ont beaucoup plus de courage que d'autres. Mais nous qui avons un peu plus de courage, soyons là pour nos frères. Visitons-les, prions avec eux, passons du temps avec eux. Et ce n'est pas un travail qui est anodin, ça. C'est un travail qui se fait dans l'ombre. Mais ça, c'est le travail que Dieu demande à chacun de ses enfants. Vous savez, on prêche la parole de Dieu sur le pupitre, mais ça ne s'arrête pas là. La visite, elle est importante pour celui qui peut la faire. Alors, oui, on passe des moments difficiles. Et là, il y a quelques jours en arrière, j'étais sur Toulouse avec ma femme et ma belle-sœur. On était dans un endroit où on mangeait un petit sandwich. Un homme est venu vers moi. Et il m'a dit « T'as pas une pièce ?» J'avais mon sandwich dans les mains. Première ration que j'ai eu à faire, j'y tiens, mange. Il m'avait demandé une pièce pour manger cet homme-là. Je lui ai donné mon sandwich. Et cet homme s'est mis à pleurer. Pas grand-chose, un sandwich. Et cet homme a commencé à me raconter sa vie. Seigneur, ce que cet homme a passé, je le souhaite à aucun d'entre nous. En une semaine, il perd sa mère. Il voit sa mère mourir. Cet homme va aller avertir son frère. Il essaie de l'appeler, le téléphone ne sonne pas. Il va à l'appartement de son frère. Son frère, ça faisait 4 jours qu'il était mort en état de décomposition. Cet homme a été abandonné par sa femme. Elle l'a laissé. Elle a pris ses 2 enfants. Il ne s'est même plus calé. Cet homme s'est retrouvé sans rien du jour au lendemain. Et cet homme, vraiment, il m'a touché. Alors, je lui ai donné quelques petits mots. Il aurait été sur Albi, sincèrement, mais j'étais sur Toulouse. Alors je lui ai dit, tu sais mon frère, tu passes des temps difficiles. Et il m'avait fait part, il me dit, mais toi, t'es un chrétien, toi. Il dit, oui, je suis un chrétien. Il me dit, oui, parce que je vais à l'église, mais t'as quelque chose. Et les serviteurs de l'église... Il allait à l'église et puis ils lui ont donné quelques petits conseils. Et dans son témoignage, il me disait, je voudrais mettre fin à ma vie. J'ai dit, surtout ne fais pas ça. Parce que le jour que tu feras ça, tu as un aller direct pour aller en enfer. Il dit, oui, c'est ce qu'on m'a dit, les serviteurs m'ont dit la même chose. Alors je dis, moi, la seule chose que je peux te dire, le Seigneur est là, dans des temps de grande détresse, mais surtout approche-toi des serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu qui vont te donner des conseils. Et ils vont te donner une direction. Et s'il faut t'aider dans la prière, ou on va dire en dehors de la prière, ils sont là pour toi. Et après, je n'ai plus vu cet homme-là. Parfois, Dieu nous met des personnes devant nous, et on n'ose pas, nous. Osez le faire. Parce que des fois, on est là et on est timide et on ne veut pas dire un mot. Et des fois, une fois qu'on est parti, mais Seigneur, pourquoi j'ai pas dit ce que tu as mis sur mon cœur, de dire un petit mot. N'hésitons pas, quelle que soit la situation, l'endroit où nous trouvons, au travail, à la maison, ou des personnes qui viennent nous voir, mettez toujours le Seigneur en premier. Et vous verrez qu'un seul mot, des fois, peut changer vraiment une vie entière. Alors, par rapport à cela, il y a dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu nous dit, chapitre 25, verset 11, « Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que les objets en or et décorés d'argent. » Ça a plus de valeur, une parole. Parce que vous le savez, dans la parole de Dieu, il est dit que par une seule parole, on peut tuer une personne. Mais par une seule parole, une personne peut venir au Seigneur et sortir de son découragement. Alors, une parole dite au bon moment peut amener une personne qui a le cœur brisé à se tourner vers Dieu. Et lorsqu'on témoigne que seul Dieu est la solution, on va dire, au problème, mais oui, il y a des personnes qui acceptent le Seigneur dans ces moments-là de grande détresse. Alors, nous sommes enfants de Dieu et Dieu nous appelle à faire sa volonté. C'est notre Père, lui. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous devons faire la volonté du Seigneur. Jonas, lui, pour revenir à lui, ne pouvait plus, on va dire, crier contre cette ville. Parce que Jonas se trouvait loin de la face de Dieu. Il s'est éloigné peu à peu, loin du Seigneur. Et bien sûr, nous regardons son cheminement, il va descendre à Jaffa, où il va prendre un bateau pour Tarsis. Il descend au fond, et en plus, dans le bateau, il va descendre au fond, on va dire, de la cale du bateau. Et là, lorsqu'il est au plus bas, ben, il finit par s'endormir. Frères et sœurs, faisons bien attention, ne faisons pas comme Jonas. Des fois, Dieu nous parle par sa parole. Et sa parole nous encourage, on va dire, à ne pas baisser les bras et d'aller justement, d'être utile pour lui. Mais lorsque nous baissons les bras et puis on est loin de la face de Dieu pour écouter sa parole, eh bien on finit comme Jonas, on finit par s'endormir au plus profond du bateau. Lorsqu'on s'est éloigné peu à peu du Seigneur, on tombe dans une léthargie spirituelle, frères et sœurs. On n'est plus à l'écoute de Dieu. Dieu voudrait nous utiliser pour son œuvre, dans l'Église, en dehors de l'Église. Mais parfois, le courage nous manque. Pourquoi ? Parce qu'on est loin de la face de Dieu. On finit, bien sûr, découragé. Et puis, la peur fait son apparition, la crainte, l'angoisse. On se tient à l'écart de l'Église, chose qui peut arriver. Des frères et sœurs, on vient de moins en moins réunion. Et là, après, je vous dis franchement, c'est dur. C'est dur. Alors, comment Jonas est sorti, on va dire, de son problème, de son découragement, et quelle fut la solution pour lui? Mais nous avons la réponse à la parole de Dieu. Jonas, chapitre 2, versets 2 à 3, il nous est dit, « Jonas, dans le ventre du grand poisson, pria l'Éternel son Dieu. » Et voilà les mots qu'il va dire. Ces mots sont forts. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Amen. Il était dans une grande détresse. Mais sa solution à lui, elle est dans le Seigneur. Et peut-être parmi nous, il y a des personnes qui sont dans une grande détresse. Moi, je vous encourage à vous adresser à Dieu et de crier à lui. Parce qu'il est la solution à tout problème, à tout souci, à toute difficulté. Et Jonas, il va dire aussi au verset 8, c'est beau ce qu'il va dire là. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Quand j'étais abattu, combien de fois j'étais abattu? Combien de fois j'ai demandé à Dieu? Et Dieu a écouté ma prière. Peut-être parmi nous, il y a des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut montrer un beau visage. et au plus profond de nous être abattus. Mais souvenez-vous que Dieu, lui, il a la solution, il a eu la solution pour Jonas, comme il peut avoir la solution pour toi. Alors, Jonas a reconnu que la solution pour lui, c'était se tourner vers Dieu. Quelle est la solution pour toi, qui est ici ce matin? Peut-être qu'il n'y a personne qui a des épreuves dans sa vie, et je bénis Dieu. Mais il y en a peut-être qui en ont. La solution pour Jonas, c'était de se tourner vers le Seigneur. Et là, il y a un très beau texte que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, qui a réconforté mon cœur. C'est le psaume 50, verset 15. Et là, c'est le psalmiste David. David, l'homme qui marchait selon le cœur de Dieu. Il va dire... J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dans le psaume 34, verset 4. Après, je repasserai au psaume 50. Le psaume 18, verset 6. David dira, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Et là, Dieu pourrait dire ce matin, comme David a fait, invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Dieu peut s'adresser à nous ce matin comme cela. Invoque-moi, invoque-le, et tu verras que le Seigneur sera la source, sera une source pour toi, qui va te permettre de sortir, on va dire, de ton état dans lequel tu te trouves. C'est dans les moments de grande détresse que notre esprit est abattu, qu'il faut crier à lui. Nous l'avons vu pour David. Il est le seul qui peut nous relever. Et le seul qui peut nous encourager. Alors, ce matin, Dieu nous fait comprendre que oui, nous sommes sur la terre et nous avons nos temps. Nous avons nos moments de joie, de grande joie. Mais nous avons aussi nos temps de tristesse, d'épreuve. Dieu est là. Amen. Alors maintenant, j'ai moi un autre texte qui va s'écrire sur le tableau. Nous irons dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Acab remporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Jézabel. Tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartenait à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y vit là, à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis il se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva et mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu en Horeb. Là, nous voyons un homme exceptionnel. Élie, lui, c'est un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il passe 3 années au torrent de Kirit sans y bouger. Et là, nous sommes dans un temps où Israël... Les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu. À cette époque-là, le roi de cette époque-là, c'était Achab. Et sa femme était Jézabel. Alors, il était remarquable, mais Élie a fait de grandes choses. Chapitre 18, verset 1, il nous dit que Élie reçut un ordre de Dieu d'aller se présenter devant Achab. Achab avait mis le troupe sur Israël et avait abandonné les commandements du Seigneur. Et là, vous connaissez l'histoire, il y a cette histoire où Élie va monter sur le mont Carmel, où il va y avoir ces 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et là, Élie va obtenir une grande victoire. Une grande victoire. Il va voir la puissante main de Dieu agir. Mais malgré cela qu'il a vu la puissante main de Dieu agir, malgré cela que c'est un homme, que vous allez voir un peu plus loin, qu'il a prié, la puce s'est arrêtée, la prière a repris, cet homme-là il apprend une mauvaise nouvelle. Une femme veut le faire mourir. La femme d'Akab veut le faire mourir. Et puis face à cette nouvelle, Élie s'en va et il s'enfuit pour sauver sa vie. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 5, verset 17, et là moi je l'ai dans une version peut-être pas comme la vôtre, mais moi c'est la version parole vivante. Élie, par exemple, est un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments que nous et aux mêmes expériences. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tombe pas d'eau de pluie sur la terre. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, la terre recommença à produire ses récoltes. Et là, nous voyons que Élie, de par sa prière, avait déjà expérimenté la puissance de la prière. De quelle manière Dieu avait agi. Parfois, des fois, nous appuyons-nous sur la puissance de la prière. Comme je disais, il y a une personne hier, que la prière est la respiration de l'âme. Il est bon des fois de prier, dans des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps fâcheux. Il est bon de s'adresser à Dieu. Dieu nous écoute, lui. On l'a vu tout à l'heure, que Dieu nous écoute. Alors bien sûr, malgré tout cela, oui, il a fait de grandes choses, Élie. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes confrontés parfois de mauvaises nouvelles, comme Élie. Alors la mauvaise nouvelle, ça peut être quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une prise de sang, et on vous dit que vous avez un cancer. C'est une mauvaise nouvelle. On vous dit, tout va bien, téléphone sonne, on vous dit, votre fils est décédé d'un accident. C'est une mauvaise nouvelle. Ou alors certains vont perdre leur travail, leur situation. Les mauvaises nouvelles, frères et sœurs, ça touche tout le monde. Et c'est parfois bien compliqué. Parce qu'à cause d'une nouvelle, des fois, on peut se retrouver dans l'abattement. Alors j'aimerais vous dire ce matin, quelle que soit la mauvaise nouvelle qui nous touche, plaçons notre foi dans le Seigneur. Il est le seul qui a la solution, lui, à tous nos problèmes que nous pouvons rencontrer. Mais parfois, dans nos problèmes, Dieu, parfois, peut nous amener une personne, un serviteur, un ancien, une sœur parfois, et peut nous apporter un mot de Dieu pour nous réconforter. Comme un petit morceau de pain, vous avez vu comme vous avez fait, vous mangez un petit morceau de pain, quel bien, le bien-être qui vous y fait. Un petit mot de Dieu, ça réconforte et ça fait du bien. Alors, nous l'avons vu, Élie demande la mort, lui, parce que la mauvaise nouvelle est là. Et il va tomber dans une grande détresse. Mais lorsque nous sommes au plus bas, dans la plus grande détresse que nous pouvons être, il y a toujours une personne qui sera là. Et là, pour lui, c'est un ange qui vient. Et pas n'importe quel ange. La Bible nous dit que c'est l'ange de l'Éternel. Pour ceux qui le connaissent, qui l'ont reçu, je sais que c'est l'ange de l'Éternel. Il ne l'a pas abandonné. Alors, l'ange de l'Éternel vient vers lui, le touche et lui dit « Lève-toi et mange. » Et ce matin, j'aimerais m'adresser peut-être à des personnes de prendre position et de se lever. Et surtout de manger. Parce que la nourriture terrestre, elle sera bonne qu'à nous faire mourir. On va mourir du cholestérol. Mais la nourriture céleste, c'est une nourriture qui est spéciale. Elle est bonne pour l'âme, elle. Alors la Bible nous dit au verset 8, « Il se leva, mangea et but, et avec la force, tu lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. » Vous voyez que la nourriture donne une force. Sans cette force-là, on ne peut pas arriver au but. Le but se trouve à 40 jours de marche pour atteindre. Et bien sûr, ce qu'il va manger, c'est un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Et là, nous avons l'image de la parole de Dieu qui réconforte nos cœurs et qui nous donne des forces nouvelles. Combien de fois qu'on mange la parole de Dieu ? Moi, la parole de Dieu, je la mange. Comme je la lis, c'est pas une lecture. Je la mange parce qu'elle est bonne pour mon âme. J'y trouve toutes les nutritions qui sont bonnes pour mon corps, spirituellement. Et l'eau qu'il va boire, bien sûr, c'est l'image de l'esprit qui nous conduit, comme il a conduit, on va dire, Élie jusqu'à la montagne de Dieu. Vous savez, sans la parole de Dieu, cette parole qui est dans nos cœurs, qui est gravée, et sans le Saint-Esprit qui nous conduit à aller de l'avant, c'est très compliqué pour arriver au but. Ce matin, le Seigneur nous dit qu'il est avec nous et qu'il peut nous donner encore cette force nécessaire pour atteindre le but. Et nous savons que le but n'est pas encore là. Il est devant nous. Mais en attendant, nourrissons-nous des bonnes choses. La parole de Dieu, qui est bonne pour l'âme. Alors, en conclusion, oui, nous pouvons être découragés et avoir peur comme les enfants d'Israël pour affronter les géants. Oui, à cause de notre désobéissance, nous pouvons être loin, éloignés de la face de Dieu. Et oui, comme une mauvaise nouvelle qui peut nous terrifier comme ça a été terrifié Élie. Mais nous sommes sur terre et nous ne sommes pas exempts de toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, 10, il nous dit que nous sommes exposés à diverses épreuves sur la terre. Mais Dieu, dans ces moments-là, oui, il peut nous restaurer. Ce matin, s'il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurées, n'hésitez pas. Faites comme Jonas, criez. Ou alors, comme Élie, levez-vous. Dieu est là, lui. Dieu va vous donner ce qui est nécessaire à votre vie. Alors, j'aimerais maintenant m'arrêter sur les promesses. J'ai trouvé, il y en a plein. Mais j'aimerais m'arrêter sur quelques promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Ne l'oublions pas, il nous a fait des promesses. Et c'est sur ces promesses-là que nous voulons, on va dire, faire grandir notre foi. Il a fait la promesse de nous soutenir, et ça nous le trouvons, pour ceux qui veulent prendre des notes, dans Ésaïe 41, verset 10. Il a fait la promesse d'être à nos côtés dans les moments difficiles. Et là, nous le retrouvons dans Ésaïe 44, verset 10. Comme nous l'avons vu au début de mon introduction et de ma prédication, nous sommes engagés dans un combat, frères et sœurs. Et là, je terminerai par la dernière promesse. Dieu nous a fait la promesse de nous donner un vêtement blanc. Et là, nous le trouvons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Voilà ce que le Seigneur ce matin a mis sur mon cœur. Et en réalité, ce n'était pas ce que je devais prêcher. Mais suite à la conversation que j'ai eue avec ce jeune homme à Toulouse, mais j'ai dit, Seigneur, oui, peut-être il y a des personnes qui passent par des temps difficiles, des temps de grande détresse. Alors ce matin, moi, vos cœurs, moi, je ne les connais pas. On se voit, mais on ne se connaît pas réellement à l'intérieur du cœur. Dieu, lui, vous connaît. Alors ce matin, s'il y aurait des personnes qui passent par des temps de grande difficulté, des personnes qui passent par des temps de doute, des personnes qui sont tombées dans l'anxiété, des personnes qui sont même tombées presque à la dépression. Mais moi, je vous invite ce matin, si vous reconnaissez dans ce qui a été dit ce matin, de faire comme Élie, mais de prendre position et de vous lever à votre place, si vous avez un réel besoin. Moi, personnellement, je suis là devant vous et je me lève, parce que j'ai besoin toujours que Dieu m'encourage dans ma marche chrétienne. Béni Seigneur, sois loué Jésus-Christ. Seigneur, divin médecin, Tu es le Père, Seigneur Dieu, qui prend soin. Le Père qui entend, qui voit, qui se met à la portée de chacun de ses enfants, Seigneur. Toi, bien souvent, des fois, Seigneur, tu vois le cri dans les larmes de chaque personne. Seigneur, tu vois tant de personnes qui passent par des temps difficiles, Seigneur, et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Seigneur, je t'apporte, Seigneur Dieu, toutes ces personnes qui sont levées, Seigneur, qui ont besoin de toi, de ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu es notre Dieu. Oui, les problèmes sont là, Seigneur. Les découragements, Seigneur, la maladie, elle est là, Seigneur. Mais toi aussi, tu es là, Seigneur. Et un mot de toi, Seigneur Dieu, ben, tout est apaisé, Seigneur. Un mot de toi, Seigneur. Un mot de toi, Seigneur. Je bénis ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Elle est celle qui nous fait comprendre qui tu es, quel est le plan que tu veux pour nous. Merci pour chaque personne, Seigneur, qui s'est levée. Parce que derrière chaque personne, il y a un cœur. Et ces cœurs-là, toi, tu les connais, Seigneur. Tu connais leur âme. Et tu lis dans leur âme, Seigneur. Tu connais leurs besoins, Seigneur. À toi la gloire et la puissance, Fils de Dieu. Amen.